Alors, bonjour tout le monde, vous êtes nombreux. Les enfants, je vais parler un petit moment, je ne vais pas faire trop long, je vous rassure, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, ce que je vais dire, ça vous concerne aussi un petit peu, donc écoutez d'une oreille. À quelle scène biblique aurais-tu voulu assister ? Voilà une question qu'on pose dans certains magazines chrétiens, et j'aime bien lire les réponses, mais je ne me suis jamais tellement posé la question. Et pas plus tard que vendredi, j'ai réalisé que j'aurais voulu être parmi la foule qui écoutait Jésus parler. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent que je déteste la foule. Mais on parlait dans Matthieu 14, au verset 13, de 5000 hommes qui avaient été nourris par les pains et les poissons dans la multiplication. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que ça fait bien plus que 5000 personnes qui écoutaient Jésus. Aujourd'hui, on n'est pas 200. Si je pose mon micro, je pense qu'il n'y a pas la moitié de la salle qui m'entend. Et là, je me dis, Jésus parlait sans micro et avec plein d'enfants autour de lui. En tant que maman, je me demande comment ces femmes faisaient avec leurs enfants au milieu de cette foule. Parce que ce n'est pas possible qu'un bébé, à un moment donné, n'ait pas pleuré. Ce n'est pas possible que des enfants, des petits, aient chahuté. Enfin, c'est impossible qu'ils soient restés tranquilles à écouter Jésus. En plus, il n'y avait pas de chaise. Donc, j'aurais voulu être avec ces mamans pour voir comment elles s'en sortaient, ça m'interpelle vraiment. Aujourd'hui, je suis soulagée que les dimanches matins, il y a une structure qui soit mise en place pour prendre en charge mes enfants, pour que je puisse écouter le culte tranquillement. Et je me demande si tout à coup, on me disait, ben, Jésus va venir dans cette ville, il y aura plein de monde, viens avec tes enfants. Est-ce que j'aurais le courage de venir avec mes enfants, en sachant que je devrais les surveiller dans une foule? Est-ce que je ne vais pas me dire, oh, je vais en perdre un, il y en a un qui va déranger, et puis pendant la prière, il y en a sûrement un qui va pleurer, les gens vont me regarder avec des gros yeux. Et c'est une question que je me suis posée. C'est vrai que dans cette foule, ces mamans, ben, elles étaient là, et je suis sûre qu'il y en a qui ont été touchées par ce que Jésus disait, par ce que Jésus faisait, et elles n'ont pas choisi de rester à la maison. Avec Dieu, on n'a pas besoin de choisir entre notre famille et Dieu. Parce que Dieu, je vais utiliser un terme qui pique un peu certaines personnes, mais voilà, c'est un Dieu multigénérationnel. Il veut être connu de génération en génération. Ce n'est pas un Dieu que pour une certaine tranche d'âge. C'est un Dieu qui est pour toutes les tranches d'âge du nouveau-né au plus vieux d'entre nous. À aucun moment dans cette foule de personnes, il a dit à ses disciples, « Bon, les disciples, allez vous occuper des enfants, faites une petite animation pour que moi je puisse parler avec les grandes personnes. » Non, il a accueilli les enfants qui étaient là, il a parlé aussi pour eux. Et ce matin, c'est pour ça que nous sommes tous là avec les enfants. C'est parce que Dieu a aussi des choses à apporter aux enfants, et pas seulement aux grandes personnes. Dans beaucoup de versets bibliques, on voit que Jésus veut être ce Dieu que nous devons transmettre à nos enfants de génération en génération. Il y a par exemple le psaume 78, versets 5 à 7, que Gaël va nous afficher. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'en Dieu ils mettent leur confiance. De génération en génération, nous avons un devoir en tant que parents de transmettre à nos enfants ce que nous connaissons de Dieu, mais l'Église a aussi un devoir de transmettre aux enfants que l'Église soit connue de génération en génération. Dieu a utilisé de nombreux enfants pour réaliser ses projets, ses plans dans la Bible. Et il est écrit dans sa parole que quand il répondra à son esprit, ce sera sur toute chair. On le voit dans Joël 3, versets 1 à 2, dans ses prophéties, et Pierre le reprend dans Actes 2, verset 17. Je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. On voit là bien trois générations. Il y a les jeunes, les fils et les filles, qui sont nos enfants, on pourrait dire de 0 à 18 ans. Il y a les anciens. C'est un terme honorable dans la Bible, ne vous vexez pas, de 60 ans et plus, les retraités, les grands-parents. Et il y a les jeunes gens, la génération de 20 à 60 ans. Dieu n'exclut pas, il ne dit pas seulement ces personnes-là pourront avoir mon esprit. Non, du début à la fin, de la naissance au plus ancien, Dieu a envie de nous utiliser. Les enfants, vous nous bousculez parfois. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin de nouveautés. Et tout vous paraît trop vieillot. Enfin, trop éclaté, comme diraient mes enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants à la maison, ça veut dire nul. Dieu utilise cette créativité des enfants. Dieu utilise ce besoin de nouveauté chez les enfants pour nous remettre en question, nous les adultes les plus anciens. Parce que Dieu est un Dieu créatif. Il utilise des façons tellement inimaginables pour nous parler, pour nous rejoindre dans notre réalité. Si vous parlez avec une autre personne, vous aurez l'impression que ce n'est pas le même Dieu qui vous parle, parce que Dieu utilise votre sensibilité pour vous parler, pour vous rejoindre, et ça ne sera pas la même qu'une autre personne. Alors Dieu utilise cette créativité et ce besoin des enfants de nouveauté, que ça bouge et qu'on ne reste pas dans nos petits souliers. En tant qu'adulte, des fois, on se dit « Ah, tant que ça fonctionne, on ne va pas changer. » Eh bien, les enfants, ils ont besoin que ça change, parfois. Alors attention, je ne dis pas que tout vient de Dieu, mais parfois, c'est bien d'écouter, c'est bon d'écouter nos enfants pour nous remettre sur ce que Dieu a vraiment prévu pour nous, pour notre famille, pour notre église, pour notre vie. Et Dieu n'oublie pas non plus les anciens, qui sont aussi un équilibre pour nous. Enfin, on a les enfants qui ont envie de bouger, mais qui n'ont pas forcément les ressources. Il y a les jeunes gens qui sont la force vive, finalement, de ce que pourraient apporter les enfants, de la vision, une stabilité. Et les plus anciens qui sont des bons intercesseurs, qui donnent l'équilibre aussi à tout ça et qui permettent d'aller droit dans la cible. Comme une flèche, vous avez la pointe avec les enfants, la hampe, la partie du milieu avec les jeunes gens et les anciens qui représentent la flèche, les petites plumes à la fin, qui donnent la bonne direction. Et sans les petites plumes, la flèche ne va pas aller dans la bonne direction. On a besoin de toutes les générations, on a besoin des personnes qui peuvent apporter des forces vives, des personnes qui peuvent apporter un équilibre en priant pour les plans que Dieu a mis sur nos cœurs. À aucun moment donné, dans la Bible, Dieu a mis les enfants de côté. Alors ne passons pas à côté de ce que pourraient nous apporter nos enfants. Oui, c'est vrai, parfois ils nous dérangent en criant, en faisant du bruit, mais ça ne vient pas forcément non plus de... Mais Dieu les a créés ainsi, finalement Dieu les a créés petits, il les a créés sans parole au début, et juste les pleurs pour s'exprimer, alors utilisons aussi ce que Dieu a créé, et ne renions pas les cris de nos enfants. Dieu n'a pas fait des petits robots, hein, des petits adultes, il les a créés en tant qu'enfants, il savait ce qu'il faisait. Donc sur mon cœur, il y a vraiment un échange entre les générations qui doit avoir lieu pour la réalisation du plan de Dieu pour notre Église. J'ai cette image de Samuel qui est dans le temple. On dit qu'il est encore jeune enfant quand il entend une voix l'appeler pendant la nuit. Et il se lève et il va vers Élie, le prêtre, et il croit que c'est Élie qui l'a appelé. Et puis Élie lui dit « Non, non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher ». C'est précisé dans 1 Samuel 3, verset 7, que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc Samuel, il entendait cette voix, mais il ne savait pas quoi en faire. Au bout de la troisième fois, Élie comprend que c'est Dieu qui l'appelle et explique à Samuel quoi faire. Nos enfants sont sensibles. Samuel était jeune. Nos enfants sont sensibles aux choses spirituelles. Il ne faut pas l'oublier. Ils peuvent aussi entendre Dieu leur parler. Mais c'est vrai que parfois, ils vont l'entendre, mais pas savoir quoi faire avec ça, parce qu'ils ne se connaissent pas encore tout de la parole, comme beaucoup d'entre nous du reste. Mais ils ont besoin de l'expérience des plus grands, des plus âgés, de leurs parents, de leurs grands-parents, de l'Église, pour que leur parole fasse ce qu'ils ont reçu dans leur sens, dans leur cœur fasse sens. Comme Samuel avait besoin d'Élie pour comprendre qui l'appelait. Dieu ne divise pas l'Église en tranches d'âge, mais il rassemble l'Église, son Église, l'Église d'aujourd'hui, les enfants, les anciens ne sont pas l'Église d'hier, les enfants ne sont pas l'Église de demain, mais nous sommes tous ensemble l'Église d'aujourd'hui. Alors ce matin, vous êtes en petit cercle, on va passer à une phase pratique, mais vous ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal. Nous allons prier tous ensemble, prier entre les générations, avec les enfants, tous ensemble. Et je vais inviter d'ailleurs Delphine à me rejoindre. On va vous guider dans différents temps de prière.